Hello, c'est Ange, j'écris sur la Creator Economy et vous êtes sur le podcast Planet Creators. Planet Creators, c'est l'émission qui va à la rencontre des entrepreneurs, investisseurs et professionnels de l'industrie de la création de contenu. Je co-anime souvent l'émission avec un, deux ou trois autres buddies pour te donner les clés de l'industrie des creators. Utiliser le potentiel de la Creator Economy pour développer ton business et découvrir les champions d'un marché à plus de 100 milliards de dollars. Cette émission est produite par le studio de podcast AirParty. AirParty, c'est aussi TechSource, le podcast pour découvrir les sources utilisées par les acteurs de la tech, mais également Many to Many, l'émission des communautés augmentées. Pour retrouver toutes les émissions du studio, direction airparty.io. Bonne écoute.
Merci à tous d'être là, donc merci Alex, merci Julie d'être présent, et nous avons notre invité du jour, du coup Hugo Anselem.
Merci pour l'invitation.
Ah, merci à toi d'être venu.
Ouais, merci.
Donc ce coup je te propose, premier tour, est-ce que tu peux te présenter rapidement, donc dire qui tu es, ce que tu fais, en quelques mots.
Ouais, alors très rapidement, je m'appelle Hugo, je tombe amoureux, donc je tombe amoureux des idées, et je tombe amoureux des gens, et là mon amour... au présent, c'est d'aider des entrepreneurs en étant investisseur. Voilà. Donc on est dans le projet, parce qu'on peut parler que d'un projet, parce que c'est plein de choses compliquées de monter un fonds. Maintenant, on a le projet de monter un fonds pour essayer d'aider les entrepreneurs qui se focusent sur du consumer, donc tout ce qui est B2C, en gros, de changer la vie des gens et pas la vie des entreprises. Et voilà, donc c'est le tout début du projet et j'espère qu'on pourra en parler plus tard, pas pendant le podcast parce que j'ai pas le droit, mais d'accord. Plus tard dans les prochains mois, okay. Quand ça pourrait être lancé.
Alors on va parler du fond justement.
Excellent, ouais, bah écoute, merci du coup pour cette présentation. Hugo, on s'est connu par la Creator Economy, donc on s'était parlé sur les réseaux, sur LinkedIn, et après on s'est même
exactement.
Vu sur un gathering que t'avais organisé.
Et j'ai eu la bonne surprise de réaliser qu'il faisait 2,50 m.
ouais, c'est la surprise derrière l'écran, on voit jamais, on le fait tout le temps ce coup-là. Et du coup, ouais, t'étais dans la Creator Economy, ou bien est-ce qu'on peut dire que tu es toujours dans la Creator Economy? Est-ce que tu regardes un peu toujours ce space-là ou
Ouais, mais comme je te disais, je tombe amoureux, genre, ouais. quand je tombe amoureux, j'y vais toujours à fond. Et là, pour le coup, dans la Creator Economy, j'y suis allé complètement à fond, j'étais fasciné par la thèse, fasciné par le sujet, et... je voulais répliquer tout ce que j'avais vu dans le monde des startups, mais cette fois-ci dans le monde des créateurs. Il s'avère que l'analogie entre les startups et les créateurs marche, mais jusqu'à un certain point, et que j'en ai un peu atteint les limites. Et donc, maintenant, j'élargis en fait, en général, sur ce que j'aime, c'est-à-dire changer la vie des gens, des consommateurs, des gens en général, la façon dont ils s'organisent en tant qu'individus, en tant que collectif. Et ça en fait partie, les créateurs en font partie. Okay. Mais c'est plus le seul sujet que je regarde, parce que là, ça, j'ai passé 2-3 ans dessus, et ça y est, j'ai à peu près compris, jusqu'à qu'il y ait des choses qui changent dans cet environnement-là, et que du coup, j'ai besoin de réupdater mon operating system sur le sujet. Mm-hmm. Pour l'instant, je regarde de plus loin que vraiment en y étant à fond dedans, quoi.
Ok, parce que du coup, quelles sont un peu les limites que tu as découvert un peu dans la Creator Economy, qui t'ont poussé à aller un peu plus loin dans ta réflexion?
Alors... Les créateurs, en fait, c'est un sujet que moi j'ai depuis très longtemps. Et là, on peut repartir en presque méta. Je suis né à Paris, mais je suis parti vivre dans une petite ville du sud de Lyon de 3000 habitants. Mmh. Et en fait, quand tu es dans une petite ville de 3000 habitants, il n'y a pas grand chose à faire, quoi. Et en fait, le problème et la solution, c'est qu'il n'y a pas grand chose à faire, mais d'un coup, il y a Internet qui arrive. Et quand il y a Internet qui arrive, c'est absolument génial. Il n'y a plus besoin de demander la permission à qui que ce soit pour faire. Quoi que ce soit. Alors, il y a besoin de demander la permission à sa mère, parce que si on n'a pas accès à l'ordinateur, on n'a accès à rien. Mais en général, on peut être n'importe qui derrière son écran. Tu vois, c'est ce fameux mime là sur Internet où genre, you can be a dog. Tu vois, il y a un chien sur Internet qui est comme ça, tu ne sais pas que c'est un chien derrière. Là, c'est pareil. Tu ne sais pas que c'est un gamin de 16 ans et tu ne sais pas que c'est. Donc, moi, j'ai fait toute ma découverte du monde à travers Internet à ce moment-là. Et. En fait, je suis devenu un créateur malgré moi. Alors, j'étais gamer avant, mais ça, on s'en fout. Et après, je suis devenu créateur malgré moi à un très, très, très petit niveau. Tu vas voir pourquoi c'est une abstraction et pas un exemple comme tu l'entendrais maintenant, c'est-à-dire TikTok, etc. J'ai commencé à écrire à 18 ans sur l'industrie musicale. Donc, je suis fasciné de musique, je suis passionné de musique, je suis aussi passionné d'Internet et je me dis, bah tiens, on va essayer de rejoindre les deux passions, Internet et les ordinateurs et la musique. Et donc, je commence un blog et je commence à écrire mes analyses de 18 ans sur l'industrie musicale. Et donc, j'ai un blog, il n'y a pas beaucoup de gens qui font de blog à ce moment-là, on doit être en 2008, 2009 à peine. Et en fait, mes analyses résonnent. Et résonnent, tu vois, où je suis invité par Pascal Nec, qui est le directeur de la Starac, mais surtout d'Universal Music France. C'était genre le patron du.
Ouais, c'est le boss, quoi, c'est un des boss.
Du music game, tu vois. Pareil, il y a le fils de Jean-Jacques Goldman, Michael Goldman, qui montait une plateforme de crowdfunding, comme moi j'ai fini par faire après, et qui m'appelle et qui en gros me disent, ouais, monsieur l'expert, en gros, tu vois, monsieur l'expert, on voudrait vous prendre pour du consulting et tout. Et moi, j'ai 18 ans, je suis en train de jouer à FIFA, en train de répondre au téléphone, je me dis, what? Et donc en fait, je me rends compte que quand on est sur Internet, et on a besoin de demander la permission à personne, on a pas besoin de demander la permission pour apprendre. Avant, il fallait aller en université, il fallait demander la permission à HEC, je sais pas moi, pour avoir accès au savoir. Maintenant, c'est gratuit en ligne. On n'a pas besoin de demander la permission pour produire. Moi, je suis en train de produire un blog. Et au final, une fois que j'ai écrit une fois, qu'il y ait 1 milliard de personnes qui lisent mon blog ou une personne, c'est le même coût. Donc, pas besoin de demander de l'argent. Donc, pas besoin de demander de la permission pour produire. On peut produire. Avant, il fallait des factories, etc. Et évidemment, pas besoin de demander la permission pour distribuer. Moi, en fait, mon blog, il est accessible en ligne. Je commence à faire des tweets, à faire des... Bref, je commence à être sur les réseaux. Et il y a des gens qui lisent mes articles. Et donc, au final, je me dis, putain, c'est un truc de fou. Il n'y a plus besoin de demander la permission. Et donc moi, la créateur economy, c'est par ça. C'est en étant moi-même une forme de créateur. En ayant après, en fait, créé une plateforme de crowdfunding sur ce constat-là, en disant, les artistes, en fait, ils peuvent demander de l'argent à leurs fans. Et il n'y a plus besoin de demander la permission au label. On demande de l'argent auprès des fans. On apprend à faire de la musique en ligne. On le distribue sur YouTube. Et puis, c'est basta. Genre, ça y est, c'est fini. Donc au final, ça fait 10 ans que je regarde ce phénomène qui est sous-jacent de la creator economy, c'est on ne demande pas la permission. Et donc quand on est en 2019 et qu'à ce moment-là, moi, je suis en travail sur le projet pour The Family, donc on reviendra sur ce, mais je pense que la plupart des gens le connaîtront à peu près de nom, je travaille sur un festival en fait, j'ai une idée, je me dis il faut qu'on fasse un festival de famille, parce que ce qu'on sait faire de mieux, c'est la teuf en gros, et accompagner des boîtes. Mais en termes de phénomène, c'était quand même un de famille, bref, c'est un autre sujet. Mais je me dis, il faut qu'on fasse un festival. Sauf que ce festival-là, on va célébrer l'entrepreneuriat d'Internet. Et l'entrepreneuriat d'Internet, il a deux pendants. C'est soit tu utilises le contenu pour scaler et tu deviens un créateur, YouTube, podcast, texte, blog, tout ce que tu veux, soit tu utilises le code pour scaler, et là, tu deviens une start-up. Et moi, ça faisait 7 ans que j'avais fait 2 familles, et moi, j'avais monté des boîtes avant, donc je sais ce que c'est l'entrepreneuriat start-up. Mais là, je découvre, à ce moment-là, redécouvre qu'en fait, pendant des années où moi, je dormais, il y avait des millions de créateurs vidéo, cette fois-ci, qui, eux, commencent à créer des vrais business, encore une fois, sans permission. Et je me dis, putain, mais il faut tous qu'on les célèbre au même niveau pour que les gens, ils se disent, à 18 ans, en fait, je peux faire ce que je veux, je peux apprendre ce que je veux, et après, je choisis le code, je choisis le contenu, mais let's go. Et donc, en fait, c'est pour ça que moi, je suis tombé amoureux très, très concrètement du mouvement créateur, mais c'est comme une fois, c'est encore une réflexion qui est beaucoup plus ancienne, où je me dis, c'est génial, on n'a plus besoin des gatekeepers, on n'a plus besoin des gardiens du temple, maintenant, on peut prendre d'assaut les châteaux des institutions d'avant, et aller les défoncer, iPhone par iPhone, ordinateur par ordinateur. Et donc c'est pour ça que moi je tombe amoureux du système, du monde de créateurs, c'est que je vois pas des TikTokers qui sont là en train de se la raconter devant un écran. Je vois des gens qui tuent des institutions, je vois des gens qui détruisent des gatekeepers. Et moi ça en général, ça me fait plaisir parce que c'est ce que j'ai vécu moi-même. Du coup j'essaie de le enable. Donc c'est ça en fait le monde des créateurs pour moi, ça a été cette réalisation là.
Ok, cool. Et ça me fait penser d'ailleurs à un petit aparté là. Je sais pas si tu vois ce qu'il c'était, Dan Runcy, le fondeur de Trapital. En fait, c'est quelqu'un qui a créé un média. À base, c'était juste un rédacteur web de base. Et après, il a focus sur le hip-hop. Et du coup, aujourd'hui, maintenant, c'est devenu aux États-Unis, l'une des sources numéro 1 sur le hip-hop game. Tu vois, mais genre vraiment la partie business dynamics, tu vois. Pas juste les parties de musique et tout. Et aujourd'hui, maintenant, il fait des conférences à Harvard et il est invité partout. Il y a Steve Stout qui le reçoit sur scène normal, tu vois. Genre. Et alors qu'à la base, c'était juste un rédacteur web, tu vois. Et en quelques années, il a réussi à faire. En fait, c'est le même profil que toi, tu vois. Ouais. Et lui, il a poussé encore plus loin le sujet. Et je trouve ça ouf, en fait, ce côté un peu. Quand t'as dit, t'as pas besoin de demander la permission. Je trouve que c'est ça en fait qui est ouf dans la créateur économie. Et alors là, c'est une question aussi qui me revient. C'est, j'ai vu, pardon, t'avais été à JSMAC, donc si je me souviens qu'on avait un peu discuté, tu m'avais dit que tu avais développé la partie un peu accélérateur, qui finalement après que vous avez pas forcément pu se pousser que ça. Et je vois qu'il y a d'autres aussi structures qui avaient essayé, donc la Lunch House aussi notamment. Et est-ce que tu penses que c'est le fait d'avoir voulu entre guillemets apprivoiser ce talent brut en fait, était peut-être difficile à faire, parce que peut-être en final, peut-être que le créateur, c'est juste une entre guillemets une énergie qui a besoin de se développer de lui-même. Et en fait, on n'a pas forcément besoin de lui donner une ligne directrice, il a besoin de le faire. Et c'était trop compliqué de faire une ligne directrice. Ou au contraire, peut-être qu'il y avait un sujet qui n'avait pas été abordé, ou alors peut-être qu'il y a des partenaires qui devaient rentrer, qui n'ont pas voulu,
ouais.
Des investisseurs ou des choses comme ça.
Non, c'est une bonne question. En gros, moi je me suis dit, tiens, il y a des fonds pour investir dans les startups elles scale, et ben, il faudrait qu'il y ait des fonds pour investir dans les créateurs, parce que les créateurs scale. Donc il y a peut-être une classe d'actifs qui est pas exploitée, donc moi j'avais envie de le faire. Et en fait, ce que tu commences à explorer quand tu rentres dans le monde des créateurs et que tu dis, bah, tiens, je vais essayer d'investir dans leur futur. Bah c'est déjà que, un, la façon de s'aligner avec un créateur légalement, et même en termes d'incentive, genre, elle est très, 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 très compliquée. Tu vois, tu fais YC, tu dis, OK, on prend 7%, donne 120K, c'est une convertible note, après, il y aura une série A, une série B, on peut sortir derrière l'IPO. Enfin bref, tu sais comment tu peux transformer 5% en beaucoup d'argent. On a des exemples. Alors, même l'écosystème startup, même s'il est plus facile à aligner, il a dû itérer sur plein de formats, etc. Mais là, le créateur, en fait, t'arrives, lui, généralement, il n'a pas l'entreprise. Tu lui dis, bon, c'est pas simplement une entreprise, c'est de l'IP, donc c'est la propriété intellectuelle. Donc tu dis, OK, comment on va faire pour essayer de s'aligner avec lui? Donc tu veux lui dire, OK, on investit, tu nous rends la somme avec un premium plus tard, tu vois, donc c'est une forme de dette, ça a d'autres noms, mais il y a énormément de solutions, tu vois. Mais tu as envie, toi, d'avoir un pari très tôt sur un créateur, et après d'avoir un payback énorme. Tu vois, t'as envie de répliquer la forme de l'equity. Mais il n'y a pas d'equity pour les créateurs. Donc ce que les gens font, et moi c'est ce avec quoi je ne suis pas vraiment à l'aise, et c'est pour ça qu'au final on l'a testé, mais on ne l'a pas fait, parce que c'est très difficile de s'aligner avec eux. Ce que les gens font aujourd'hui, c'est qu'ils prennent le créateur, ils lui disent de créer une holding company, tu vois, une boîte en haut, et d'écrire une side letter, donc une espèce d'accord sur le côté, qui dit que toute l'IP qui est générée à partir du créateur à 360, tu vois. Elle accrue, enfin elle revient à cette entreprise là pendant tout le temps.
D'accord. Okay.
Et la boîte qui investit a un claim sur les futurs revenus de cette holding pendant les 30 prochaines années, tu vois.
Ouais, autre.
Ouais, 30. Si le créateur est carton, on sait pas, parce qu'aujourd'hui MrBeast c'est le plus gros créateur du monde, il a que 10 ans, donc au final on sait ce que c'est, ça peut être dans 10 ans, mais tu veux vraiment gagner plus tard, quoi. Mais le problème, c'est que le créateur, quand il part, c'est tout basé sur une personne, donc le créateur, quand il arrête d'être créateur, ou il n'y a plus aucun actif qui continue, alors que le CEO, il peut être CEO pendant 3-4 ans, les founders, ils peuvent être founders pendant 3-4 ans, après ils partent, et ben, la boîte, elle a toujours un actif sous-jacent qui peut être repris, etc. Là, c'est très, très, très compliqué. Donc ça, c'est le premier point, très difficile de s'aligner avec le créateur. Il y a plein de formats, j'ai écrit, si vous tapez Invest in Creators, j'ai écrit un article, j'ai tous les formats pour essayer de s'aligner, c'est très compliqué. Deuxième point, c'est que les créateurs, ils sont difficiles à manager, mais j'ai envie de te dire, moi j'ai géré des founders pendant 10 ans, ils ne sont pas non plus extrêmement faciles à gérer. Alors il y en a qui ont fait HEC, il y en a qui ont un petit col de cravate et qui savent se présenter, mais au final c'est des tarés. Et donc quand il y a des gens tarés, enfin j'ai des histoires à la pelle de founder où tu te dis, mais qui c'est, des malades mentaux. Donc non, ils sont aussi difficiles, c'est cette espèce d'énergie créative, et c'est difficile à orienter, mais c'est un peu pour ça qu'on le fait aussi, c'est que voilà, on a envie de faire partie de l'aventure de gens exceptionnels et fous. Mais le problème, c'est que les créateurs, en fait, ils sont dans un monde qui est complètement différent. Et laisse-moi te faire une analogie de 2 minutes, mais en gros, le monde de la start-up, il est génial parce qu'il a ce côté pay it forward. Qu'est-ce que ça veut dire pay it forward? Ça veut dire que quand tu aides quelqu'un, tu sais que le karma va revenir et que du coup, il va t'aider en retour. Pourquoi? Parce qu'en fait, le monde de la start-up, c'est un monde en énorme croissance. Il y a un nombre de marchés qui sont en train d'être digitalisés, software in the world, qui est invincible. Et donc, ça fait que c'est toujours, toujours une économie en croissance. Et donc, quand l'économie est en croissance, ça fait ce fameux truc dont on parle tout le temps, ça te donne un positive sum game. Donc là, comme ils disent, la paille, la tarte est toujours en train de grandir, donc c'est pas grave, tu vois, c'est génial. Et donc, tu peux donner plein d'heures de ton temps, plein de tickets d'angel investment à plein de gens. Il y a un moment, en fait, ça peut devenir Mark Zuckerberg. Et donc, tu as intérêt, en fait, concrètement, à toujours aider les gens. Tu les aides pas tout le temps, mais tu les aides une fois, et puis après, tu vois. Dans le monde des créateurs, il y a quand même un niveau d'attention qui est fini dans le monde. Même si tu pourrais dire qu'il y a plein de gens qui arrivent sur les réseaux sociaux, donc ça crée, tu vois, une tarte qui continue à grandir et que donc du coup tu peux avoir un positive sum game, au final, pas tant que ça. Il y a des créateurs qui montent, il y a des créateurs qui descendent. Il ne peut pas y avoir un nombre infini de créateurs qui se partagent.
En gros, le marché, c'est le marché de l'attention.
C'est ça. Et c'est très très compliqué parce que de un, le marché de l'attention, il est fini, mais il croit un peu. Mais de deux, le marché des créateurs, il est aussi sous le marché de l'entertainment, qui eux sont encore pires en termes de zero sum game. C'est genre, il y a tant de films par an, il y a tant de séries par an, donc il y a tant de place à la table, donc t'y es pas, mais en gros, c'est, si je te mange, donc au final, le monde des créateurs est le monde de l'attention plus le monde de l'entertainment, donc deux zero sum game à des degrés moindres. Et donc, en fait, tu te rends compte que les créateurs, ils sont entourés de gens qui sont toujours en train d'essayer de twister un truc. Et dès qu'ils cartonnent le créateur, le manager ou les gens autour vont essayer de casser le contrat. Donc, t'as pas envie, en fait, d'être dans ces trucs-là.
Et comment ça marche avec les très jeunes créateurs? Parce qu'il y en a qui sont très jeunes, genre des Gen Z, Gen Alpha. Comment ça fonctionne
C'est les parents qui créent les boîtes. C'est les parents qui créent les boîtes. Et après, ça, c'est le système légal américain souvent, donc j'en sais rien, mais... Mais ils ont accès à 18 ans ou à 21 ans, je crois que c'est 18, parce que les 21 c'est pour boire, à 18 c'est pour le business, je sais pas, un truc comme ça. Ils ont accès après à la valeur qui a été créée en tant que part de business, etc.
Du coup, ça fait un peu un effet, parce que j'avais lu un bouquin, je suis un temps sur les agents de joueurs, je suis un temps, je voulais devenir agent artistique. Du coup, j'ai regardé, c'est les agents de joueurs anglais, et du coup, il y avait un espèce de game où il fallait un peu séduire le père, tu vois, le père de famille, aller récupérer le gamin, tu vois, genre en mode, le gamin il est archi bon et il a 16 ans, et en fait, faut que tu lui mettes super bien le daron pour qu'après,
100%.
C'est pareil pour la créateur.
C'est le film, franchement. Ouais.
Faut être poteux avec le père de Jordi.
C'est ça, en fait. Non, mais c'est vrai. Et donc, tu vois, pour tous ces sujets-là, moi je me suis dit, c'est des coûts de réputation qui sont trop élevés.
D'accord.
Pour en plus un payback qui est trop faible, parce que le dernier point, c'est que, en fait, quand tu gagnes avec une start-up, ça devient Facebook, tu fais des millions. Quand tu gagnes avec un créateur, tu fais pas des millions. Donc, c'est très difficile de prendre des paris très tôt, très risqués, pour avoir en fait un payback qui est pas si haut. Donc, très très compliqué de faire ça. Quoi.
Tu parles des créateurs avec un rôle. Qui ont un peu l'équivalent de la start-up avec les levées de fonds, l'entreprise, tout ça, mais tout ce qui est indie creator, enfin tous ceux qui réussissent de manière organique, c'est-à-dire qui font qui vendent des solutions et qui ont des membres qui payent avec des subscriptions, je veux dire, tous les mois, mais qui passent pas par un modèle d'entreprise dans lequel il y a des gens qui investissent. Tu as étudié un peu ce modèle-là, des gens qui organiquement montent?
Ouais, déjà, la plupart des créateurs montent organiquement parce qu'on a la chance d'avoir des algorithmes qui, du coup, propulsent des gens au top. Donc, pour le coup, c'est toujours de l'organique au final. On a de la paid acquisition dans les startups, il n'y a pas de paid acquisition dans les créateurs, ça ne marche pas. Mais oui, bien sûr, c'est la majorité des créateurs.
D'accord, ok. Parce qu'il y a quand même tout une tendance dans la creator economy qui s'est mis un peu en opposition aux influenceurs ou en tout cas au modèle dont tu parles là, c'est-à-dire le modèle dont tu parles, il n'existe pas depuis 3 ans, il existe depuis un certain nombre d'années. Et moi, quand j'avais creusé un peu sur, enfin, ce qui m'avait attiré dans la creator economy, c'était le côté ownership, quoi. Vous êtes désormais, vous avez une audience, elle est à vous, les mails ils sont à vous, et si vous voulez les facturer, vous avez Substack, vous avez un paywall, et moi j'avais suivi la creator economy plutôt dans ce sens-là. Et finalement, vers 2021-2022, il y a un switch où les influenceurs ont repris la casquette de creator, et donc du coup, on entend moins parler des creators au sens de ownership, quoi, et on entend plus parler les creators au sens de MrBeast, etc.
Bien sûr.
Après, moi, je fais pas de différence entre les créateurs et les influenceurs. Hein. Moi, c'est des individus. Alors, les créateurs, on a les influenceurs, historiquement, c'est Instagram. Donc, historiquement, c'est photos, c'est statut, c'est regarde comment je suis cool. Mais au final, ils font tous de la vidéo maintenant. Donc, au final, créateur, maintenant, c'est vidéo, photo, podcast, enfin, audio, etc. Non, c'est comme les startups. Pareil pour les créateurs. Tu optimises pour trois choses différentes et en fonction de ça, bah, tu as un jeu différent. Tu optimises pour la sécurité. Dans ces cas-là, tu crées à l'intérieur d'une entreprise. Pareil, dans ce cas-là, tu es software développeur dans une entreprise. Voilà, ça, c'est la sécurité. Tu optimises pour la liberté. Et là, tu veux te mettre de ton destin, bah, tu bootstrap. Pareil en startup, tu fais ton indie hacker, tu fais ton bootstrap SaaS, tu grossis organiquement, etc. Créateur, pareil. Tu fais ton contenu, tu as envie de ce contenu qui est un peu niche, qui a une croissance linéaire, etc. Tu fais tes cours, tu génères des subscriptions, tu as tes emails, etc. Ça, c'est le jeu. Mais pareil, startup ou créateur. Et après, c'est ce dont on parle souvent, c'est ceux qui optimisent pour la gloire. Et donc, ceux qui optimisent pour la gloire, bah, ils ont presque toutes les chances de mourir, comme quand tu vas, tu vois, faire à l'armée ou je sais pas quoi, genre, bref, faire des combats un peu glorieux, tu vois, à l'époque. Tu as toutes les chances de mourir, mais si tu meurs pas, bah, là, par contre, c'est la gloire, donc on t'oublie jamais, en gros. J'exagère. Hein.
C'est hyper intéressant.
Non, c'est ça. Et en fait... Super. La plupart des créateurs et des startups, enfin des fondateurs startups dont on parle, c'est des fondateurs startups qui optimisent pour la gloire. Et au final, c'est pas moins bien ou mieux, mais ces gens-là, et c'est pareil pour la musique, tu vois, et l'analogie avec la musique, elle est flagrante. Ces gens-là, ils ont pas besoin de permission pour commencer. Voilà, c'est ça qui est génial. C'est-à-dire qu'avant, tu voulais avoir accès à n'importe quoi en tant qu'audience physique ou tu vois, là, en concert. Bah, tu avais besoin, en tant que musicien, d'aller devant Pascal Nègre, etc. Et lui dire, je te jure, je suis trop fort, etc. Et il te dit, moi, je suis pas sûr. C'est lui qui décidait, voilà. Maintenant, et donc c'était un peu comme, pour ceux qui font des startups, c'était pre-seed investor, seed investor. C'était vraiment le premier tour de financement. Ils disaient, ah, j'y crois, je te vois, je t'aime bien. Allez, bam, c'est parti. Maintenant, quand tu es musicien, tu n'as pas besoin de ça. Mais... tu as quand même besoin d'une machine à scaler. Et la machine à scaler, maintenant, elle n'arrive plus en pré-seed où elle te transforme en star. Non, elle te laisse faire. Voilà, tu crées, vois comment le marché réagit à ta musique, comment tu arrives de façon très entrepreneuriale à créer une communauté, à la faire grossir. Et après, il te dit, OK, cool, on va arriver, nous, c'est la série A ou la série B. Allez, c'est parti. On va t'amener toute l'infrastructure universelle, on va t'amener toute l'infrastructure pour les créateurs d'autres boîtes. Et là, moi, en fait, j'ai identifié sur ta data que, ben, en fait, il y a une, t'as tant de pourcents de croissance dans des géographies, genre le Japon. Et moi, je sais qu'au Japon, ton audience, elle est super adjacente avec l'audience de Jabakazoku et je sais pas qui. Et moi, je vais aller faire un concert, une série de concerts. En première partie, il y aura lui, lui et lui.
Ah oui.
Et derrière, on va. Et en fait, ça, genre, quand t'es un créateur ou quand t'es un artiste et quand t'as des ressources limitées, c'est-à-dire que bah, t'as ton manager et trois potes. En fait, tu n'as pas accès à ça. Donc, tu peux décider à ce moment-là de dire, tu sais quoi, moi, je veux continuer à grossir linéairement. Et,
ouais.
et voilà. Et où tu peux te dire, allez, let's go. C'est parti. Et là, je prends la grosse injection de cash, comme la start-up qui te dit, bah, je pourrais continuer comme ça, tranquille, à faire une croissance linéaire. Ou alors, il y a Sequoia qui arrive, ils mettent 100 millions et c'est parti. C'est pareil, en fait.
C'est ça, en fait.
Donc, on en parle beaucoup parce qu'évidemment, on se rappelle toujours des gens qui prennent le risque de mourir, très simplement. Et de faire ce genre de truc-là, enfin MrBeast, pour connaître très bien, je connais lui, j'ai eu la chance de passer 2 heures avec lui.
C'est cool.
En face-to-face, tu vois, à parler de tout, réfléchir de tout.
Ouais.
Et j'ai la chance d'avoir un pote qui s'est fait racheter par MrBeast et qui est moi, un mec que je mentor depuis longtemps, qui est très jeune. Et du coup, maintenant, il me raconte ce qui se passe en interne. Et c'est n'importe quoi. Tout est prêt à exploser tous les mois.
Par rapport à la personnalité des mecs en soi ou la structure
même. Gère le business.
Ah ouais.
Mais il est bien géré, le business. C'est pas qu'il est mal géré. C'est qu'il est géré pour potentiellement prendre des risques de mort tous les 3 mois.
C'est ça. C'est des risques létaux. Tu peux crever.
C'est ça.
Aller des burgers, des concours de.
En tant que business, genre, tu te fais squeezer. En fait, tu rates un truc. Ton cash n'arrive pas dans les 2 mois parce qu'en fait, t'as brûlé le studio ou t'as fuck up 2 vidéos qu'il a pas envie de sortir. Et tu dis, ah bah là, du coup, on a un trou de 800 000, tu vois.
Oui,
parce que ta vidéo, elle coûte 800 000. Donc en fait, on fait 2 vidéos, ça y est, on rate 2 vidéos, c'est 1,6 million. Ah.
Ouais,
bref,
ouais.
Donc ils sont toujours en train de prendre ces paris constants. Et c'est pareil, on s'en rappelle parce que bah, on sait qu'il prend le risque de mourir à chaque fois.
Putain, voilà. c'est complètement fou, en fait, ce modèle.
Créateur, pour toi, on est d'accord, ça, c'est associé à de l'économie. Un mec qui est influent, qui fait du contenu, qui est très connu, mais qui ne monétise pas, comment on l'appelle, celui-là?
On l'appelle un puriste.
Il y en a beaucoup en France, des gens comme ça. C'est-à-dire que le modèle du creator, c'est celui qui vit de sa passion.
Ouais. Mais qui, genre? Qui a une audience de ouf et qui ne monétise pas?
Des influenceurs sur Internet, des gens...
Des newsletters, tu vois, qui vont le faire. Après, c'est ce que c'était toi la différence entre la... On va dire, c'est pas chaîne économique, creator économique, sur la partie un peu professionnalisation du métier de créateur.
C'est ce que j'avais creusé, moi, en 2020. C'est qu'il y avait, sur cette créateur économie, j'en trouvais pas des creators. C'est-à-dire des gens qui voulaient monétiser. La conclusion, moi, que j'avais eue, c'est qu'en France, t'as le chômage. Et que, en fait, ça te donne pas la dalle. Alors qu'aux États-Unis, quand t'as les médias en 2020 qui font des charrettes pour virer les journalistes et que t'as Substack qui naît pendant ce truc-là, t'as des journalistes qui ont la dalle et qui se disent il faut que je vive et qui se disent j'ai un réseau, je le monétise, il me faut un paywall. Et en France, moi, j'ai eu l'impression que la vague de la creator economy au sens US, elle n'est pas venue à cause de ça. Parce que finalement, nous, on a 2 ans de...
Après, peut-être qu'il y a aussi une timidité au fait de monétiser aussi, tu vois. Parce que peut-être qu'aux États-Unis, tu vois, t'as le côté genre... Il n'y a pas de honte à monétiser, tu vois, il n'y a pas de honte à faire de l'argent. Tu vois,
États-Unis, il lâche la carte plus rapidement quand même aussi.
Parce que nous, on est plutôt timides, tu vois, genre, juste pour payer, on va dire, 10 balles pour une newsletter. Ouais. Mais là, on a l'impression qu'on a lâché 100 balles par mois, quoi, tu vois. Alors qu'en fait, c'est juste... Au final, c'est pas grand-chose à l'échelle d'une personne, tu vois. Mais en fait, ça paraît un truc de fou, parce que peut-être soit le besoin, il n'est pas encore ancré chez les gens, tu vois. C'est quand même, on paye pour du Netflix 10 balles, mais on n'est pas prêt à payer un mec 10 balles pour la même qualité, on va dire, tu vois. Et je pense que ça a plus le fait qu'on est un peu timide. Même moi, hein, j'écris mon contenu, je sais que je voudrais bien monétiser, mais peut-être t'as toujours Alors moi, j'ai fait mon Gumroad, tu vois. Et quand j'ai voulu le mettre pour le monétiser, j'ai mis encore prix libre, tu vois. J'ai pas osé imposer un prix à quelqu'un, tu vois.
Parce que mis combien, sinon
t'as des systèmes
genre,
de...
Genre, je sais pas, 100 balles, tu vois. Genre, une base de données. Alors qu'en fait, tu vois...
Les gens, ils mettent pas 100 balles, du coup, en prix.
Bah, tu vois, je sais pas, si tu dis... les gens, ils payent pour Crunchbase, par exemple, tu vois. Alors, pourtant, c'est une base de données, en fait, qui se crape à balles. Bon, certes, c'est ultra dense, tu vois, mais c'est quand même 300 balles, tu vois, à l'année, tu vois. Et moi, tu vois, je me dis, bah, en fait... Tu vois, il y a toujours cette espèce de timidité de notre éducation, tu vois, qui fait qu'on n'y en a pas.
Mais ça, ce dont tu parles, c'est la monétisation qui a émergé en 2020, qui n'existait pas avant, qui est la monétisation frontale de ton contenu. Mmh. Alors qu'en fait, les créateurs dont on parle là, c'est des youtubeurs qui, eux, ont monétisé différemment, avec de la pub ou avec des agences. C'est beaucoup moins... je sais pas si c'est moins risqué, mais en tout cas c'est une autre manière de monétiser et t'as un skin in the game qui est peut-être un peu plus déporté. En 2020, ce qui est arrivé, c'est les mecs, vous allez pouvoir monétiser en front de votre truc. Et c'est à ce jeu-là que t'as voulu jouer, que j'ai voulu jouer, qui est très compliqué en France parce que tu fais du contenu, de la vidéo et tu veux mettre un paywall en disant payez-moi tant. Au début, ça prenait sur Patreon.
Ouais.
Puis on voit
à peine. Hein, parce que à peine. La vérité, c'est que c'est 60% du volume, c'est du cul. Donc,
non.
Bien sûr.
Ah ouais, c'est un peu comme OnlyFans, quoi. OnlyFans, son coût, c'est vraiment...
C'est Patreon, le plus grand compétiteur de Patreon, c'est OnlyFans. Parce que le plus grand compétiteur d'OnlyFans, c'est pas Patreon, ils en ont rien à faire. Enfin, c'est beaucoup plus faible comme volume. Ouais. Il faisait, au top, en 2021, il faisait 150 millions de chiffre d'affaires. Et ouais, il y a peut-être 70 qui étaient au moins, tu vois, qui étaient sur du porn.
Entendre dire les choses des
taquettes. Ouais, non, c'est adulte créateur, tu vois. C'est pas
adulte. Peggy 18.
Peggy 18, c'est ouf. Sur la capacité des créateurs à monétiser entre la France et les US, non, franchement, c'est la taille du marché. Mais effectivement, le chômage, mais c'est comme pour les startups. Hein. Moi, le nombre de boîtes que j'ai vues, ils disent ouais, on monte la boîte, c'est bon, c'est parti, tu vois, 3 fondateurs, ouais, on a pris le chômage, Repturco et tout, ouais, Mazel Tov, super, génial, moi je suis le premier à dire super. Mais ils se réveillent au bout de 3 mois avant la fin du chômage, parce qu'en fait, parce qu'en fait, on a fait le product, et ouais, et d'un coup, quand t'as 3 mois, tu te dis ouais, donc effectivement, là pour le coup, il n'y a rien de mieux que d'avoir besoin de survivre pour vivre, tu vois.
C'est ça, quand t'as faim, en fait, c'est là que tu commences à réfléchir.
Bah, oui. Et les créateurs, c'est pareil. Mais après, il y a aussi un autre truc, et surtout pour les créateurs très newsletters, donc sur le texte, c'est plus compliqué de faire la viralité, parce qu'il n'y a pas de plateforme de distribution, donc il n'y a pas de top of funnel, genre cheaté. Et le texte, c'est beaucoup de gens, et en l'occurrence, c'est mon cas aussi, mm-hmm. qui écrivent pas pour gagner de l'argent. Ils écrivent pour le statut, ils écrivent pour rencontrer des gens,
ouais,
pour scaler leur capacité de conversation. Tu vois, moi, j'ai écrit un article là sur la loneliness, il fait 21 minutes, je lui dis, j'ai regardé, je fais putain, mais merde. Qu'est-ce que j'inflige aux gens, tu vois.
Pourtant, les gens l'ont lu.
Ouais, bah, il y a beaucoup de gens qui l'ont lu, mais du coup, moi, ce que je vois, c'est je me dis, putain, c'est cool, parce que du coup, je sais pas combien de personnes l'ont lu, mais imagine même s'il y a genre 10 000 personnes qui l'ont lu. Il y a 10 000 fois 21 minutes, tu vois, c'est jamais, c'est incroyable, ouais, c'est... tu vois. Donc c'est moi, j'optimise pour ça, j'optimise pas pour le fait de monétiser. Alors après, sur le créateur économique, j'avais fait un mapping et tout, j'ai mis prix libre,
ouais.
J'ai peut-être fait 2-3 000 downloads, je fais 3 000 balles. Donc au final, un euro...
ça va.
Je fais 1 euro le
ah, c'est pas dégueu. Enfin, c'est...
Pas dégueu. Est-ce que si j'avais mis 5 ou 10 d'un coup, j'aurais fait plus? Sûrement. Ah ouais. Mais je voulais aussi optimiser sûrement, pour les emails. Je voulais capturer plein d'emails.
Ce que ah oui, dit, ah ouais. Lead generation.
Et du coup, ouais, t'as fait un bon petit pont sympa. C'est sur la partie loneliness economy. C'est du coup, je vois que c'est ton nouveau sujet. Est-ce que c'est venu de tes réflexions de la créateur ou du coup c'était venu d'autres choses? Donc, curieux un peu de savoir un peu le shift, comment ça s'est passé tout ça. Et ouais. Tu peux aussi un peu nous en parler, que c'est que la loneliness economy, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent. Donc,
En gros, très simple, et après on reviendra dessus, mais loneliness economy, c'est juste l'économie de la solitude. Les gens sont seuls et sont maintenant conscients, un, de leur solitude et deux, du lien que cette solitude a avec leur santé mentale, qui est plus que corrélé, c'est une causalité totale pour moi, en tout cas, c'est mon opinion. Et donc, ces gens, maintenant, avec cette conscientisation, recherchent des solutions, en disant, putain, merde, c'est pas possible, je peux pas rester comme ça, ça suffit, il faut que j'y réponde. Et donc, évidemment, besoin égale opportunité de marché, avec des startups qui sont là pour potentiellement aider à ces gens à appartenir à quelque chose de plus grand. La vérité, c'est que moi, genre, c'est pareil, comme les créateurs, j'ai cette thèse depuis que je dois avoir 21-22 ans, tu sais, je sais pas si vous vous souvenez, mais t'es à l'école, t'as pas besoin d'être social en fait. Tu fais du secondaire, tu vas en université, en école de commerce, en école d'ingé. Bon, bah, c'est fait pour toi là, le côté social. Donc, t'as pas besoin de faire des efforts et t'as des potes. Et quand tu sors de ça, en fait, je vais parler comme un VC, mais genre ton deal flow, ton people flow, les gens que tu rencontres régulièrement, ça passe de genre énormément de gens, potes de potes, soirée, potes de potes, machin, truc. Avec, tu vois, surtout si t'es un peu picky comme moi, bah en fait, tu vois, si ton taux de transformation c'est genre 1%, bah tu rencontres 100 personnes, t'as un mec avec qui ou une meuf avec qui t'es pote. Ouais, ok, cool. Bah, sauf qu'en fait, quand ça passe de 100 à 10, et de 100 à 5 parfois, et qu'en fait t'as un taf, et donc tu vas y a les gens de ton entreprise maintenant, bon, et puis c'est pas ils sont plus grands, ils sont plus vieux, ils sont plus jeunes, c'est pas le délire, tu vois. Et ben en fait tu commences à te rendre compte que bah au final t'as un nombre de gens que tu peux appeler amis qui est donné, qui en fait fait que descendre à partir de là. Et en fait moi je l'ai vu très très rapidement, mais parce que je suis toujours en train de me projeter, donc je me dis, j'ai dit ok, tac, je rencontre plus de gens, même si mon taf m'a amené à rencontrer plein de gens, mais je voyais tout de suite, tu vois, je me dis, fuck, on change, les gens changent. On change parce qu'on regarde du nouveau contenu, on a de nouvelles idées, l'accès à l'information est gigantesque, etc. Donc, tu peux te réinventer constamment. Mais en fait, tu te réinventes tout seul. Parce qu'aujourd'hui, quand tu réinventes aussi les relations que tu as avec les gens, les types de personnes avec qui tu interagis. Et ça, c'est un truc qui ne marche pas, tu vois. C'est un bloc. Genre, tu regardes du contenu nouveau, tu prends de nouvelles habitudes, tu prends de nouvelles personnalités, tu explores de nouvelles personnalités, mais derrière, bah en fait, tu ne partages pas avec de nouvelles personnes. Tu partages avec les mêmes qui ont en fait, ont peut-être rien à foutre. Tu vois, je m'en fous en fait de ton nouveau délire. Bref. Et en fait, moi, je regarde ça, j'essaye de monter une app en 2013 qui est une app pour permettre aux gens de déclarer leur intention à court terme. C'est-à-dire, mon hypothèse, c'était de se dire, on a plein de posts sur Facebook. Ces gens-là, en fait, il y a plein de gens avec qui tu voudrais hang out, mais tu leur demandes pas parce que c'est chelou. Tu vois, même moi, si je t'invite, je suis ah putain, j'ai trop sympa, je vais pas t'envoyer un message samedi soir, vendredi soir, et c'est quoi les bails, tu vois. Genre, tu vas me dire, ouais, il est chelou,
il s'ennuie ou quoi.
Ouais, de ouf, tu vois. Donc, mon hypothèse, c'est de te dire, quand tu partages les intentions à court terme, donc j'ai rien à faire ce soir, ou j'ai une intention, j'ai envie de faire ça ce soir, et que les gens le voient, bah du coup, ça unlock un peu, il y a plus besoin de vulnérabilité, et les gens se disent, bah tiens, tout le monde a essayé de faire cette app, ça marche jamais. En tout cas, moi, j'ai essayé en 2013, ça ne marchait pas non plus. C'était peut-être trop tôt, c'était peut-être trop nul, c'était surtout trop nul, et aussi un peu trop tôt. Et au final, j'ai gardé ce sujet-là et j'ai continué à y réfléchir beaucoup, à regarder. Arrive le Covid, Bah, tout le monde chez soi. Tout le monde chez soi, Netflix et rien. Ouais, c'est vraiment, tu fais du Uber Eats, tu regardes Netflix, ton taf il en remote, tu fais tes Zooms. Et en fait, on est arrivé pendant le confinement à ce que nous, quand moi j'étais gamer à 15 ans, on avait pour objectif de vie, c'est-à-dire de ne dépendre de personne, d'avoir Internet et de se suffire à soi-même avec Internet. Tu vois, c'était le rêve sur lequel tous les geeks ont construit le futur de ces 15 dernières années. Aller tous vous faire foutre, tu vois. Et au final, on l'a vécu, et on l'a tous vécu au même moment, et on s'est rendu compte à ce moment-là que, encore une fois, on était un peu seul, et que deux, on n'était pas si content de ça, en fait, en étant complètement indépendant. Et donc, en fait, ce moment de Covid a fait réaliser aux gens cette association solitude et tristesse, et en fait aussi a surtout donné aux gens des mauvaises habitudes de self-reliance, tu vois, de vraiment être complètement indépendant et de se suffire à soi-même, en fait, qui a continué après le Covid. Et ce qui s'est passé, c'est vraiment ça, et c'est pour ça que moi j'ai commencé à regarder le sujet de très proche, c'est que les statistiques de la solitude, ça fait longtemps que c'est en augmentation, ça fait même des dizaines d'années, mais avec le Covid, en fait, a complètement explosé, et il y a eu ce moment de conscientisation globale. Et moi, ma thèse, elle est très simple. Elle n'est pas très simple, en fait, de vérité, mais j'aime bien dire qu'elle est très simple. Ma thèse, elle est très simple. C'est de dire qu'en fait, depuis presque 200 ans, et je peux même partir en méta, je sais qu'on est déjà à la 37e minute, donc il va falloir que je me déchauffe sur les méta et sur les grandes envolées lyriques. Mais
vas-y, on a le temps.
En gros, depuis 200 ans, en gros, pire, allez, c'est parti, je vais vraiment sur la totalité de la thèse.
Marty, prends la DeLorean.
Mais là, je peux te dire que la DeLorean, elle va partir très très loin. Guerre des religions.
Ah ouais, ok, vas-y, on est parti.
Il y a 200-300 ans, bref, on se tape sur la gueule, les cathos, les protestants, et qui sait qui a raison, il a pas raison, il a tort, et on fout des guerres et des guerres et des guerres, ça fait 400 ans, on est fatigué. Et là, on se dit, bon, il faut quand même qu'on décide d'un nouveau modèle où il n'y a pas quelqu'un qui a le droit de dire ce qui est bien et ce qui est mal. Voilà, il y a la religion, il y a l'État et tous ces trucs-là, ça marche pas, et il faut qu'on arrive à créer un modèle, et c'est ce modèle qu'on invente, le libéralisme, où les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent, sans que ça soit bien ou mal. Et ont le droit de faire ce qu'ils veulent sans que ça soit bien ou mal. Mais il faut quand même qu'on décide d'autres règles qui ne soient pas du bien ou du mal, mais qui soient de t'as envie ou t'as pas envie, en gros. Et donc on invente deux choses. Le droit, donc c'est légal ou c'est pas légal. C'est pas bien ou mal, c'est pas c'est légal ou pas légal. Et le marché. Est-ce que t'as envie d'acheter ça ou est-ce que t'as pas envie d'acheter ça? Si t'as envie de l'acheter, si t'as envie de penser ça, t'as le droit de le faire. Et ça marche de façon super. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça met d'un coup le focus sur l'individu, qui devient libre politiquement, idéologiquement et économiquement. Et donc, ça crée le libéralisme. Et ça, c'est génial. Moi, je suis un très grand libéral. Et si on est dans les startups, on a quand même une dimension extrêmement libérale, tu vois, sur la capacité à laisser le marché dicter les besoins, etc. Et ce que ça fait, en revanche, c'est que ça donne une puissance à l'individu dont on a joui, tout ce qu'on peut faire c'est grâce à ça, mais qui en fait aujourd'hui arrive à un moment où l'individu a pris le pas sur toute forme d'institution du passé, mais aussi encore du présent, qui, ces institutions, permettaient à l'individu de faire partie de quelque chose de plus grand que lui. Et donc, naturellement, en ayant besoin de ces institutions, en ayant besoin des autres, en gros, l'obligeait aussi à socialiser. Et donc, je vous donne des exemples que vous connaissez évidemment, c'est la religion, évidemment, la religion. Bon, on n'en a plus besoin, mais il y a des externalités positives à la religion qu'on n'a plus. La famille, le groupe de potes aussi, d'une certaine manière, le couple, l'entreprise, le quartier, etc., etc. Et en fait, le truc, c'est que maintenant, avant, on avait besoin de demander à nos parents pour venir nous chercher à l'aéroport. On avait besoin de la religion pour nous guider. Et maintenant, les gens commencent à parler à un AI. Les gens, ils parlent à un AI. Oui, mais avant, les gens, ils parlaient à Dieu. Donc, tu vois, il y avait tous ces trucs-là qui permettaient, en fait, aux gens de faire partie de quelque chose de plus grand. Et aujourd'hui, on arrive à un moment où l'individu est libre, l'individu est indépendant. On parle même de l'individu sovereign, tu vois, Bitcoin, tout ça. L'individu, il est sovereign. Mais l'individu, il est seul. Voilà. Et le problème, c'est que l'individu, il n'est pas qu'un consommateur, c'est aussi quelqu'un qui a besoin de faire partie de quelque chose de plus grand que lui. Et on est arrivé à un moment où il n'y a plus vraiment de choses qui nous dépassent. Et moi, ce que j'ai voulu faire avec cet article sur la loneliness economy, c'est de dire, et de répondre un peu aussi à tous les gens qui te disent c'est à cause de la technologie, la technologie nous rend seuls, la technologie nous rend malades, la technologie nous rend ça. Et je dis non, la technologie elle est neutre, la technologie elle suit l'idéologie. Et si l'idéologie c'est de donner à l'individu des pouvoirs absolus contre toute forme de collectivisme, et je comprends pourquoi, je viens de l'expliquer, il y avait un besoin, la technologie va suivre cette idéologie et va donner à l'individu qui d'un coup a des besoins d'indépendance ce dont il a envie. Puisque maintenant, avec le Covid, les gens, et pas que, mais les gens ont conscientisé qu'en fait, ce rêve d'autonomie absolue de l'individu atteint ses limites et qu'il y a une conscientisation, les gens veulent quelque chose de différent, et bien moi, je pense que la technologie va nous donner exactement ça. Donc la technologie n'est pas isolante par défaut ou n'est pas connectante par défaut. Elle est ce que les gens veulent et elle est ce que l'idéologie, est ce que l'éthos du moment veut. Et je sens que cet éthos est en train de changer. Donc j'ai voulu couvrir toutes ces startups qui étaient en train de nous aider à appartenir at scale, parce que c'est des startups technologiques généralement, en disant qu'on allait ouvrir un nouveau chapitre de l'appartenance communautaire à travers la technologie.
Wow.
C'est l'analyse est vraiment super cohérente quoi, et ça me fait penser un peu à ChatGPT. On dit garbage input, garbage output quoi, c'est en fonction de ce que tu lui donnes, il va ressortir un peu là.
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Et même chose,
moi je vais juste un peu rebondir aussi sur le fait, enfin alors peut-être après je suis un peu vieux jeu là-dessus, tu vois, c'est en fait, je suis un peu partagé, tu vois, sur la position. Du coup, parce que autant je suis d'accord que la tech elle est neutre et reste un peu nous qui l'orientons là où on veut, autant l'être humain reste quand même un animal et il a toujours besoin de cette connexion en fait infinitésimale, tu vois, de la connexion entre les gens, tu vois. On se parle aujourd'hui, tu vois, c'est toujours un peu plus sympa que se parler à distance. Tu vois, on a toujours besoin de ça. Et je pense que tu avais cité par exemple l'exemple de la famille, tu vois, et je me suis dit en fait autant sur tous les autres points j'arrivais, je me dis mais comment t'arrives en fait à remplacer la connexion familiale.
Tu
en fait, tu vois ce que je veux dire, c'est en fait c'est vraiment la connexion la plus entre guillemets innocente, on va dire, d'un être humain. Tu vois, c'est le en fait quand on est en galère, on va voir qui va voir son père, sa mère. On sait que c'est le dernier rempart. Tu vois. Et en fait, comment t'arriverais en fait à utiliser la technologie, tu vois, pour remplacer un peu ce.
Tu remplaces pas en fait. C'est soit tu remplaces, soit tu réinventes, soit tu renforces. Moi, pour la famille, je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. C'est pas moi qui vais te dire.
Non, mais c'est un bon point, hein, tu vois. C'est juste que tu exposerais des sphères qui étaient vraiment pertinentes, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, mais comment sur cette partie-là, tu vois, ils arriveraient à.
Tu renforces. Ouais. En fait, ouais. Tu renforces. Quand j'entends, moi, mes potes, c'est ma nouvelle famille, j'ai envie de vomir. Hein. Ta famille, c'est ta famille, frérot. Ton nouveau pote, là, que t'as rencontré à Toulouse en prenant des champignons, c'est la famille. Non, frérot, quand t'es en galère dans 5 ans, tu sais pas, y a plus personne. Donc, non, la famille, c'est la famille. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, la famille elle est éclatée souvent, pas forcément parce qu'il y a des divorces mais aussi parce que en fait tu vois tes parents ils habitent, je sais pas moi quand t'es aux US ils habitent dans le Midwest et toi tu vas à Los Angeles pour faire ta carrière, tu fais tes enfants là-bas, bon tous ces trucs là aujourd'hui la technologie elle permet soit de connecter avec tes parents, tes grands-parents de façon plus simple, tu vois je donne l'exemple à une startup auquel j'ai parlé il y a pas longtemps qui en gros interface les enfants de 5-10 ans avec leurs grands-parents, avec de l'AI. Alors, vous allez crier au scandale, mais comment ça ? Non, mais en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent une application, en gros, ChatGPT avec un wrapper et des modèles particuliers pour l'enfant, qui lui demande ce qu'il a fait dans la journée. Ah bah tiens, tu connais pas la dernière ? Ah bah, j'étais avec Jean-Michel. Enfin, Jean-Michel, il s'appelle pas Jean-Michel, son pote, mais il était avec Michael, il était trop cool. Hein. Ils vont summarize cet input pour les grands-parents avec une interface complètement différente, tu vois ? Sur lequel ils peuvent réagir aussi dans une interface très simple avec tu vois, un voice note ou même un appel vocal qui lui dit ouais, qu'est-ce que t'en penses, et après lui il resummarise et il le donne à l'enfant. Ce qui fait que, en fait, grâce à la technologie, là où l'enfant, tu lui dis allez, faut que tu parles à grand-mère, il fait relou, putain, il a pris les petits, il dit alors ouais, j'ai fait ça 2 minutes, c'est malin, et alors, parce qu'il n'y a aucun contexte. Là d'un coup, en fait, il y a un contexte qui se crée automatiquement presque tous les jours, tous les 2 jours, l'enfant est trop content, il parle à son ChatGPT et en plus, ça donne de l'info aux grands-parents qui lui re-input un truc, mais quand il s'appelle, cette fois-ci, ils ont plein de trucs à se dire. Donc, en fait, c'est comment la technologie peut soit renforcer les liens familiaux, soit les remplacer, et là, tu vas crier, mais c'est pas les remplacer, mais typiquement, y a plein de sujets aujourd'hui de garde d'enfants, des marketplaces pour nounous, tu vois, toutes ces choses-là. La vérité, c'est quoi ? C'est que avant, il y avait la famille, donc on était dans des maisons multigénérationnelles. Il y avait les grands-parents, il y avait les parents, les petits-enfants. Il y avait plein de choses qui étaient faites par les oncles, par les tantes, par la famille extended, comme on dit, tu vois, où, bah, en fait, si tu as besoin de quelque chose, ils sont là. Et aujourd'hui, ils sont plus là, ils ont la flemme, les oncles et tout. Un, ils sont pas là, et deux, ils ont pas forcément envie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est le marché qui vient remplacer. Alors, parfois, c'est chiant, parce qu'on devrait avoir plus de liens, etc. Mais parfois, c'est quand même salvateur. Je te donne l'exemple, tu vois, d'une famille, enfin, un couple qui a trois enfants. Soit ils sont blindés à la race, et là, ils prennent et la nounou, et les machins, et les trucs, et là, c'est la vie, elle est belle. Parce qu'au final, il y a le marché qui leur permet de... Et puis, ils peuvent aller voir les grands-parents au week-end. Bon, ils font tout, ils m'y kiffent. Et soit, t'es pauvre, et là, c'est la merde. Tu vois, tu peux rien faire. Et là, tu burn out, et il n'y a personne pour t'aider, et t'es nanin, et il y a un problème au taf, ou l'enfant. C'est une galère, non, sans nom. Mais il n'y a pas la famille non plus. Donc, en fait, ce que moi, j'essaye de dire aussi avec ça, c'est que dans ces cas-là, la technologie va nous permettre d'accéder à des niveaux de services autour de la famille pour permettre au couple et à la famille de vivre mieux. Très élevé, pourquoi? Parce que la technologie a cette caractéristique de faire baisser les prix et faire monter le niveau de service. Tu vois. Donc, c'est pas déconnant qu'un jour, tout le monde ait une nounou, tout le monde ait et tous les services que les gens les plus riches aujourd'hui ont, mais qu'ils soient tous tech-enabled avec des marges beaucoup plus faibles et des prix beaucoup plus bas.
Ok, ouais, c'est un peu là l'analogie avec le... Enfin, c'est très basique, mais avec la voiture chauffeur, quoi, en fait. Mm-hmm. Sauf que là, c'était qu'au début, il y a une certaine classe de population, parce que a toujours eu l'image du chauffeur en costard et tout, qu'aujourd'hui, bah, en fait, c'était... commoditisé pour tout le monde, quoi, en fait. Même ta petite cousine, elle a 18 ans, bah, tu payes du Uber et c'est pareil, quoi.
C'est la même chose. Pareil pour l'iPhone.
Ouais, c'est ça.
Un iPhone, t'as beau être Steve Jobs ou n'importe qui, t'as le même iPhone, tu vois.
C'est ça.
Pareil Netflix, y a pas, genre Jeff Bezos, il paye pas un Netflix de Jeff Bezos ou d'un coup, un truc de ouf avec du contenu spécialisé. Après ça, c'est une autre histoire, mais ça, on va pas.
Oh. je trouvais qu'il y avait la séparation, tu vois, géographique, ça conditionnait pas mal la solitude en général. Et que ces techs là que tu lises dans ton article qui est vraiment génial, hein, t'es hyper complet et tout, elle vise à combler un gap qui est souvent géographique, quoi. Par contre, quand c'est proposé, je prends un exemple entre ce que tu peux trouver dans une grande ville en termes de services pour te connecter avec les gens et quand t'es un peu à la campagne ou dans des zones semi-rurales. Et souvent, la solitude, l'isolement, enfin, moi, je la vois souvent géographique. Et donc, pour l'avoir vécu, ne vivant pas à Paris, pour lancer un business, et j'ai vu le confinement et j'ai vu l'explosion de ces nouvelles techs arriver comme une manne et comme un levier pour moi. Bah, j'ai créé le podcast, je l'ai appelé Air Party. C'est pour ça. C'est parce que dans mon garage, je pouvais faire des choses en 2020 que je ne pouvais pas faire avant. Parce qu'il y a eu des softs qui ont pris des features de ouf, il y a des abonnements qui étaient à 150, 200 balles par mois, qui sont arrivés à 20 balles par mois, tout con, mais StreamYard, Livestorm, en 2018, 2017, enfin je ne sais pas si ça existait, mais en tout cas les équivalents.
C'était compliqué.
C'était très cher. Ouais. Et donc, moi j'ai vu ton article, je me suis dit, ok. À chaque fois que ça comble une injustice ou un truc qui n'existe pas, et souvent, moi, je vois que c'est... parce que c'est loin géographiquement, tu citais l'exemple des grands-parents coupés de leur... Voilà. Je trouve que ça apporte un truc, ça progresse. Mais alors, quand tu peux le faire à la mano, à l'ancienne, par exemple, imaginons que tu as une famille, tu as les grands-parents, tu as la famille étendue, comme tu dis, à portée de main, mais que quand même, tu vas utiliser le service. Là, je trouve que c'est là où je me dis que c'est un peu dommage, ça vient un peu en compétition idiote.
100%. Et tu vois, le lien avec la créateur économie et la loneliness, c'est un truc qui est un peu bizarre. Mais quand tu enlèves les barrières, et puis c'est paradoxal avec mes deux thèses, tu vois. Sans permission, plus de barrières à l'entrée, plus de barrières à la distribution, etc. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que du coup, le marché devient une compétition gigantesque et globale. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que les gagnants deviennent plus gros et les perdants plus nombreux. MrBeast, il fait 200 millions de subscribers. Aujourd'hui, sur YouTube, 3% des chaînes font 90% des vues. Voilà. Pareil sur Spotify. Donc, tu as cette espèce de... Tu vois, on appelle ça la power low. Mais là, c'est pas là, c'est la super power low. Encore une fois, plus la compétition est parfaite, plus le marché est grand et plus les gagnants gagnent. Tu vois, genre, c'est un peu ce truc-là. Alors après, c'est pas que négatif. Il y a plein de gens qui ont accès à l'audience au lieu de pas avoir accès à l'audience. Mais ce qui se passe aussi, c'est que quand t'étais dans ton petit village là avec 3000 habitants, Et qu'il y avait un espèce de protectionnisme local, c'est-à-dire que bah, le mec le plus drôle des 3000 habitants, c'était le mec le plus drôle de la Terre, tu vois. Pour et là, d'un coup, en fait, il y a la créateur économie, en gros, il y a tout le monde avec un téléphone à 300 balles qui arrive à devenir baron sur un marché global, et bah, t'as des vrais gagnants, les mecs qui sont beaucoup plus drôles que... Et qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe que, au final, les créateurs, c'est aussi devenu les meilleurs entertainers sur toutes leurs niches, tu vois. Donc, tu as des créateurs sur des niches très obscures, mais qui, du coup, sont, pour les gens qui l'aiment, le meilleur contenu de la Terre. Mais ce qui fait qu'en fait, bah, tu as tendance à vouloir, en tant que personne dans ta ville de 3000 habitants, aller regarder le créateur que tu kiffes, qui fait le jeu vidéo que tu kiffes, avec le modèle que tu kiffes, plutôt qu'aller sometimes, parfois, hang out avec tes potes, tu vois. Mmh. Et en fait, ça... c'est le revers de la pièce. Il y a, d'un côté, il y a la créateur économie et de l'autre côté, il y a la loneliness. D'un côté, tu as un monde global de compétition totale pour l'attention et de l'autre côté, bah, tu as des gens qui perdent dans le jeu de l'attention. Et je te donne un dernier exemple, mais tu vois, Tinder, quelle est la part de likes que les 50% des mecs qui ont le moins de likes sur la plateforme ont, tu vois? Donc 50% des mecs qui sont le bottom 50, tu vois, les moins cool ou les moins beaux ou les moins ce que tu veux. Genre, ils se battent pour combien de pourcentage de likes de la plateforme en total?
Waouh! Je pense que ça va tourner autour peut-être des... Moi, je dirais 5%. 5 à 10.
1.
Ouais. La violence.
J'ai joué un partage là-dessus.
C'est chaud. Ouais. Pourquoi? Parce que la compétition est parfaite. Et donc, tu vois. Et encore une fois, donc, c'est ce truc-là, la solitude, c'est
pas beaucoup de chance, du coup.
C'est aussi beaucoup de losers, tu vois. C'est aussi beaucoup de losers. C'est aussi beaucoup de gens qui n'ont pas envie de jouer au jeu global de la compétition. Et il faut s'en occuper. Il faut faire quelque chose, en fait. Tu vois, c'est pas soutenable de rester comme ça. Donc c'est un peu les deux côtés de la pièce, quoi.
Et aujourd'hui, donc. Toi, tu regardes quoi, en fait? Je vois que tu nous as fait donc un report un peu, une revue, on va dire, de l'écosystème de la loneliness. Toi, tu as une sous-space que tu regardes un peu plus que d'autres. Parce que, tu vois, t'as cité pas mal d'exemples, tu vois, dans ton article. Hein. Donc, ça va entre guillemets, des applications Tinder, à l'aide à la famille, à la connexion entre gens autour du business. Et en fait, est-ce que tu as un secteur, enfin, est-ce que tu as une sous-partie qui t'intéresse plus et que tu trouves qu'il y a vraiment un sujet très intéressant à creuser? Ou au contraire, c'est plus une vision globale et en fait, tu regardes un peu au global. Ouais. C'est un peu, qu'est-ce que...
Non, c'est une bonne question. Il y a beaucoup de choses que j'aime. Ouais. Parce que c'est... Tu sais, moi, de famille, ce que j'ai fait principalement, c'est de la communauté. Donc moi, j'aime que les gens se rencontrent et qu'il y ait une interaction avec des sujets partagés. Et tu vois, et je fais juste, avant de te répondre, je fais juste un tout petit détour. Une autre stat, en fait, pour te montrer, en fait, dans le monde dans lequel on rentre. Moi, j'appelle ça la pornification du monde. Tu vois, le porno, il y a 20 ans, quand ça commençait à être sur Internet, tout le monde regardait n'importe quoi. Enfin, tout le monde regardait des trucs random, tu vois. Et il y avait des gens qui commençaient à regarder des trucs un peu extrêmes, etc. Ces mêmes trucs qui étaient extrêmes il y a 20 ans, ils sont mainstream de ouf maintenant, aujourd'hui.
Ouais, genre Ibaum. Qui connaît Ibaum? C'était un site comme ça. Bah, c'était
un truc très spécifique.
Bah, c'était un site un peu comme ce que tu dis, c'est-à-dire oh, putain, c'est un peu chaud.
Exactement.
Aujourd'hui, maintenant, ils sont dans les... c'est des mèmes, quoi.
c'est ça. Et en fait, pourquoi? Parce que quand tu donnes une marketplace ouverte, les gens vont se spécialiser dans ce qu'ils aiment et tu vois.
Comme Wattpad.
Exactement, comme Wattpad, exactement. Tu vois. Et là, pour le coup, t'as plein de gens qui font des trucs que t'aurais jamais soupçonné.
Des gens qui écrivent des histoires, quoi.
Ouais. Mais toi, tu n'aurais jamais soupçonné qu'il y a des gens qui avaient regardé plein de petites histoires comme ça, tu dis c'est fini? Ben non, je kiffe. Et pareil pour le porn, bon, c'est une autre histoire. là, pour le coup, ce qui est en train de se passer, c'est que ce qui s'est passé sur le porn se passe sur tout le reste du contenu et potentiellement sur tout le reste de l'économie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens qui commencent à avoir des kink content, mais pas porn, mais tu vois, mais des kink quand même, genre très 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 chelou, au point où aujourd'hui, les Gen Z te disent, à plus de 55% de cette génération-là, qu'aucune personne qu'ils connaissent dans la vraie vie kiffe le même contenu qu'eux.
Ah ouais.
Donc, en fait, tout le monde est en train d'être dans des niches, tu vois, genre très très personnalisées. Mais qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait que les gens regardent du contenu, ce que je disais au début, nouveau contenu, commencent à découvrir une nouvelle personnalité. Ah ouais, moi j'aime ça, tac tac tac. Mais sauf qu'on a utilisé aujourd'hui l'intelligence artificielle pour matcher les gens et le contenu. Donc TikTok, c'est ça, c'est on met de l'AI, là on peut avoir des gens qui ont des kinks de ouf, j'adore ça, j'en regarde de plus en plus, etc. Bref. Sauf qu'on n'a pas encore utilisé l'intelligence artificielle pour matcher les gens avec les gens. Parce que tous ces gens-là qui kiffent le même sujet, c'est vrai qu'ils sont dans des niches, mais au niveau d'une ville comme Paris, alors au niveau d'une ville comme, je sais pas, une petite ville, c'est plus compliqué, mais au niveau d'une ville comme Paris, tu en as des milliers des gens qui ont tes intérêts.
Bah
et,
oui.
Et donc, ils ne se rencontrent pas aujourd'hui, parce qu'on a pas encore, on les a pas encore matchés entre eux. Donc moi, un des trucs que je regarde beaucoup, c'est comment l'AI peut nous permettre, en fait, de résoudre ce problème qu'on a, qui est qu'on a foutu tout le monde sur Internet, on l'a tous foutu du contenu à regarder, et on a tout mélangé, mais maintenant, il faut sortez, tu vois, enfin, il faut re-ranger. Il faut re-ranger, il faut re-organiser les gens pour qu'enfin ils soient organisés avec d'autres.
Après,
gens.
Est-ce que c'est. Ah, là, ça va peut-être aussi t'intéresser aussi, du coup, Alex. C'est un peu peut-être le point que les comités en ligne ont du mal à. C'est le gros point à craquer, en fait, dans les comités en ligne. C'est qu'en fait, je prends un exemple type. Moi, j'adore Star Wars, je suis un grand fan de fou. Et j'ai l'impression que j'avais parlé un jour avec un mec, on s'est croisé à la Fnac. Trop bizarre, on se regardait devant le film et tout. Et en fait, on a discuté, tu vois. Alors qu'en fait. Je sais que si on n'était pas, si on n'aura jamais croisé, on ne sera jamais croisé, si on est deux mondes totalement différents. Et je pense que les comités en ligne, en fait, enfin, ça me fait penser par exemple aux comités dans les années 2010 où c'était les forums, tu vois. Et tu venais, tu parlais avec des gens, mais en fait, en vrai, compliqué de leur parler à l'extérieur parce que tu n'as aucune connexion, tu vois. Et comment tu arriverais à faire matcher, tu vois, des gens qui ont un point commun ou deux, tu vois, même si c'est très très niche, tu vois. Ce n'est pas dit forcément qu'ils aiment les mêmes, ou qu'ils soient potes, tu vois, parce qu'en fait, ça, c'est la personnalité des gens, tu vois. Il y a trop de couches, en fait. Et. Si on arrive à craquer ça, tant mieux, tu vois.
Je pense qu'on va le craquer d'ici 10 ans.
Ok.
Je pense. De toute façon, en gros, moi, je suis pas technique, je suis pas un expert technique, mais aujourd'hui, tu as énormément de ces opportunités ratées, de nouvelles amitiés. Et c'était le sujet, moi, que j'avais essayé de taper, tu vois, dans mon app. C'est que pourquoi tu deviens pas pote avec les gens avec qui tu devrais devenir pote ? Alors, ça veut pas dire que tu faut te remplacer tes potes tous les 5 ans, tu vois. Non, t'as des potes d'enfance, t'as des potes qui continuent à être des potes. T'as des... Bref, mais tu évolues en tant que personne, donc tes relations sociales profondes doivent aussi évoluer. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, avec l'AI, on est capable de faire quelque chose d'incroyable. C'est de comprendre personnellement tous tes trucs, tu vois. Et après de pouvoir les matcher avec des gens. Alors ça peut prendre la forme de plusieurs choses. Ça peut prendre la forme de, on va faire du dating avec de l'AI. Donc en fait, on va se rendre compte que l'AI, elle va tellement te comprendre qu'elle va te dire, alors lui, ce mec-là, cette meuf-là, tu l'aurais complètement pas regardé. Mais en fait, et cette personne-là n'aurait jamais mis sur son profil les choses que tu devrais voir pour vraiment tomber amoureux de cette personne-là. Mais nous, on n'a pas besoin de le mettre sur le profil. On le sait. Donc t'imagines, genre, toi et moi, on va à une soirée. En fait, nous, on kiffe la créateur économie de ouf, on kiffe moi le rap de ouf, on kiffe, tu vois, le New York de fou, mais on va jamais se le dire. Ou alors la probabilité qu'on arrive à avoir une conversation à deux sur tous ces sujets, elle est zéro. Mais si cette AI le sait déjà pour toi, le sait déjà pour moi, elle sait qu'on est déjà potentiellement un match, il y a un moment ou un autre, il y a un format particulier à trouver pour que ces gens-là se rencontrent. Alors, il y a des gens qui font des dîners comme ça, AI-enabled, où tu rentres, tu as des questions, tac-tac, ils analysent ton truc, ils te disent, OK, telle heure, tel endroit, tel crowd, tu vas kiffer. Tu vas, ça te fait te sentir moins seul, et puis en plus, tu rencontres des gens avec des icebreakers, etc. Il y a des apps qui le font full digital, ou qui te permettent, en fait, de parler à une AI qui va commencer à choper de la data sur toi. En mode, il comprend comment t'es, ta personnalité, il a énormément de database de personnalité, il voit tes sujets, il voit tes machins. Et derrière, il te dit, mais attends, mais lui, là, Jean-Michel, il fait rien samedi soir, tu devrais lui. Bref, ce genre de truc-là. Donc aujourd'hui, moi, je pense que l'AI va devenir un mécanisme de rangement at scale de tous ces gens qui sont en bordel dans le monde, et qui sont complètement perdus. Et qui vont pouvoir enfin trouver les gens avec qui ils devraient soit monter des business, soit se marier, soit aller sortir en soirée électro, etc. etc. Et je finis sur ça, mais il y a 20 ans, je pense que tout le monde ici se rappelle plus ou moins, mais t'as ton pote, il te dit « Ah, tu sais que j'ai rencontré une meuf en ligne !» Tu lui dis « Quel loser celui-là, qu'est-ce qu'il fait ?» Alors, il a que ça à faire.
Ah oui, je vois, ouais, c'est sûr.
Mythique, c'était le truc de « Ah, il est sur Mythique, d'accord, bon, bah, c'est fini. » Ouais, mais tu vois, genre vraiment, là, c'était dans ta tête, tu t'imaginais genre…
L'agence matrimoniale.
Bon, voilà,
ouais,
t'imaginais
c'est
le loser de l'année. Et maintenant, next thing you know, t'as Raya, et c'est que des gens au statut super élevé, des gens super cool, et t'as des stars qui vont sur Raya et trucs. Qui chopent des gens de la plèbe, tu vois, genre tu putain la vache, c'est un truc de ouf, tu vois, genre
tiers état,
c'est exactement ça. Il y a des mais tout le monde peut devenir beau, etc. Donc c'est fine. Et moi je pense que ce qui s'est passé avec le dating, où c'était pour les plus gros losers, genre qu'est-ce que tu fous, et maintenant c'est les gens les plus frais, ce même truc va se passer sur plein de différents sous-catégories, ouais. notamment l'amitié. Genre, ok, ouais. aujourd'hui encore, 2023, on te dit, ouais, non, on est potes, on s'est rencontrés sur une application. Tu fais, les losers, pareil. Eh ben, pareil, dans 5, 10, 15 ans, ça va être le truc où, évidemment, le mec super cool, il dit, bah, on s'est rencontrés sur l'app super cool parce qu'on est super cool. Okay. Et ça, ça va se passer, tu vois.
Ok, cool. Donc,
vas-y, mais tu vois, sur le côté local, tu disais. Pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à trouver au local, dans un petit village, les accointances, les points communs entre les gens qui habitent à 5 mètres, 10 mètres, 3 km de chez moi. Et moi, je pense qu'il y a un côté de. Les technos qui vont réussir à faire ça, si elles sont funded, voilà, si elles sont start-up, like. Ça a aucune chance d'arriver parce que finalement les startups qui lèvent de l'argent sur ces sujets-là, le champ de bataille, c'est des champs de bataille ultra-urbains où il y a une très grosse densité. Et c'est pour ça que tu te retrouves avec des super apps à Paris, tu vois, des marketplaces ou des services à la Uber machin où bon, tu mets ta ville, Paris, tu mets ton arrondissement et en deux minutes il vient, et que tu mets, je sais pas, Bourges. Et que le service, il n'est pas disponible. C'est parce qu'en fait, il y a une ultra-densité du marché qui est le champ d'expérimentation en MVP des startups qui fait que tu n'as aucune chance de voir ça arriver en province. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je m'étais expliqué la chose à un moment donné. C'était que si tu, artificiellement, tu ne flèches pas l'imagination des founders sur des problématiques qui ne sont pas ultra-urbaines, mais qui sont semi-rurales ou rurales, et que tu ne flèches pas des fonds là-dessus, en fait, tu n'as aucune chance de voir arriver ces trucs-là.
Ouais, mais tu as raison, il n'y a rien à flécher au final. C'est-à-dire que. Non, mais la réponse des fameux techno-optimistes, ils te diront eh ben, du coup, on crée ces boîtes-là pour les marchés les plus compétitifs, donc des marketplaces, bref. Et les surplus générés, tu les réinvestis dans les collectivités locales qui sont du coup une liability.
Ah, c'est ça l'explication. D'accord.
En tout cas, c'est ce qu'on te dit. On te dira, ouais, bon, effectivement. Bon, vas-y, viens, on fait plein d'argent. Et puis après, Uber, ils font plein d'argent, les taxes de ouf. Et puis après, on paye des bus et on les fout. Là, c'est à cost. On fout les bus et les TER qui sont vides. C'est pas grave. Donc, moi, j'avoue que sur ce sujet-là, moi, j'ai très, très peu d'avis éclairés. C'est des sujets très, très complexes. Mais moi, je te dis ce que les gens répondraient quand tu leur dirais ça. Je sais pas si je suis d'accord, mais en tout cas, c'est souvent ça qu'on.
C'est souvent l'explication, ouais.
Du coup, on arrive sur les dernières questions. Parce que du coup, je crois qu'on a fait une belle heure de discussion.
Petite heure, là.
Ouais. Du coup, on a quatre petites questions.
Vas-y. Ouais, bon. Mais je me demandais si tu te sentais toujours seul et qu'est-ce que tu as mis en place.
Ah oui.
Alors,
c'est une très bonne question. Très, très bonne question. La vérité, c'est que ça, c'est une quête de. Moi, j'ai la particularité d'être entre deux cultures. Et souvent, les gens, je m'en suis rendu compte, parce qu'avec l'économie de la solitude, là, j'ai parlé à beaucoup de gens et je commençais à avoir un pattern, tu vois. Je me dis, pourquoi les gens, ceux-là, ils se posent la question avant tout le monde ? La vérité, c'est que moi, mon père est juif, ma mère ne l'est pas, mon père est marocain, ma mère est française. Donc, de base, moi, ma famille maternelle et ma famille paternelle, ils n'ont rien à voir. Alors, ils sont tous adorables, etc. Mais, genre, il y a d'un côté la vérité si je mens, et de l'autre côté, ils font du vin. Voilà. Donc. Au final, moi, de base, je me suis toujours dit, genre, ok, j'appartiens à quoi, moi ? C'est pas une question, c'est pas une évidence, en fait, tu vois, genre, s'imagine, t'es auvergnat depuis génération, t'es quoi ? Bah, je suis auvergnat, ouais, mais moi, je suis pas aussi facile que ça. Donc, je me suis toujours demandé, genre, ok, j'appartiens à quoi ? Donc, moi, c'est un questionnement de... Mais c'est pas un questionnement de... C'est pas une souffrance, c'est plus une curiosité, une interrogation. Donc, moi, j'ai toujours regardé... ces choses-là en disant, ok, est-ce que je me sens français, est-ce que tu vois, je suis pareil, enfin, bref. Donc la vraie réponse, c'est j'ai toujours eu du mal à trouver les gens autour de moi qui partageaient du coup cette fracture aussi, et du coup de cette fracture-là partageaient un peu cette semi-crise existentielle constante, tu vois, pas violente mais toujours latente, là où en gros tu réfléchis, tu parles, tu machins, tu trucs. Et ça a été un vrai sujet depuis les 10 dernières années, tu vois. Avant, moi, j'avais deux familles. Deux familles, c'est une famille de gens tarés qui sont exactement sur ces fractures dont je parle. Tous, Oussama, Alice, c'est tous des gens qui ont ces espèces de... Tu vois, et cet optimisme du futur. Et donc, c'est des gens avec qui, tu vois... Donc moi, ça m'a, pendant un grand moment, ça m'a nourri et suffi, moi, très, très clairement. Et là, typiquement, c'est vraiment très, très contextuel. j'ai rencontré une femme qui est devenue ma copine. Et on revient tous, tous les deux, on revient à Paris presque au même moment et on se dit, putain, genre, qu'est-ce qui manque dans notre vie ? Et nous, à tous les deux, on s'est dit, dans notre vie, il nous manque de nous marrer. Mais pas avec n'importe qui. C'est toujours la même chose, on peut rigoler de tout, mais pas avec n'importe qui. Donc, nous, on dit, bah, il faut qu'on se marre avec des gens qui partagent deux autres valeurs, en plus de l'humour et de la volonté de se rigoler. C'est l'ambition, parce qu'au final, moi, je veux des gens ambitieux de qui je peux me nourrir, et la curiosité. Parce qu'ambition sans curiosité n'est que ruine de l'âme. Bref. Et on a créé une série de dîners, tu vois, où, très secrète. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde peut venir. C'est juste, nous, on va voir les gens, on dit tiens, viens, on va manger ensemble. Et on fait un truc à 15 personnes, on prend un resto, une grande table, généralement méditerranéenne, où on peut gueuler fort et rigoler. Et on essaie de le faire. Et je pense que ça va arriver de plus en plus. Et que les gens vont, de façon, au début, bah, tu vois, comme nous, on le bootstrap, c'est-à-dire qu'on le fait un peu à l'arrache. Mais il va y avoir des plateformes qui vont te permettre, des marketplaces qui vont te permettre de le faire, d'abstracter la complexité de logistique, l'intention. On va dire, ah bah t'as, ces mecs-là dont on sait qu'ils sont absolument cool, ils sont libres samedi soir, organise un truc. Tu cliques, l'IA va dire, vous êtes libre, 12h, machin, truc, à coup ils habitent. Et hop, d'un coup, t'as un social planner qui t'a fait ton club de dîner, tu vois. Donc ça, je pense que ça va arriver.
Oui, il y en a de plus en plus. Moi, j'ai des amis aussi qui font ça. Ouais. Moi, j'ai fait des cafés à un moment donné. Ah c'était oui, genre ouais. Le samedi matin.
Mais oui, t'es café entrepreneur.
Ouais. Le minimum viable coffee.
Ah, c'est ça, MVC, c'était.
Ouais.
Très drôle. Bah voilà, tu vois, imagine que là, ça a été une pain pour toi sur plein d'aspects.
Ouais.
Trouver les gens, organiser, synchroniser, truc. Bah là, à mon avis, dans 5-10 ans, il y a des plateformes qui vont tout faire pour toi. Quoi.
Et tu sais qu'au 19e siècle, ce dont tu parles, ça a existé et ça a eu un pouvoir politique qui a renversé, si je ne me trompe pas, la monarchie de Juillet. Ça s'appelait les banquets. En fait, les gens se réunissaient en table de 15-20. Ils appelaient ça des banquets. Sous couvert de « on va faire une bonne bouffe », la police ne regardait pas trop, tu vois. En tout cas, ce n'est pas la police, c'est les politiques du moment. Et en fait, ça cassait grave du sucre sur la monarchie. Et les banquets, au final, ils ont été obligés de les interdire, si je ne me trompe pas.
Et c'est toujours ça. C'est toujours ça. Manger est un acte de rébellion.
Non, mais c'est ça.
J'ai un très bon pote, Louis, pour ne pas le citer, qui lui, en fait, cite toujours comme son endgame, donc tu vois, le jeu de la fin. Son endgame, c'est comme dans Astérix, tu vois. C'est le banquet à la fin. À la fin, on rigole, on boit des coups, on mange sur une grande table, tu vois. Et moi, c'est ça. Genre, si jamais j'avais déjà vu un truc en plus qui s'appelait comme ça, mais moi, si jamais je monte une boîte dans ce monde-là, tu vois, mais je le ferai pas parce que je suis pas un bon entrepreneur, mais moi, j'ai envie de l'appeler grande table, tu vois, big table. Juste, c'est ça, moi. Si tu mets une grande table avec de la bonne bouffe, non, les gens qui rigolent, c'est bon. Qu'est-ce que
tu t'emmerdes,
c'est vrai, la bouffe et le community building, c'est lié. Il y a un super bouquin de Jacques Attali sur la bouffe et. Ouais, sur ce pouvoir de réunir qu'il faudrait.
Ah ouais,
ouais, je le mettrai en show note, mais
vas-y, tu noteras ça. Bah, écoute, cool. Du coup, reste, on passe à notre dernière question avant de te libérer. Donc, première question, c'est si tu devais investir dans une start-up de la créateur économie ou de la loneliness economy. C'est du coup, on va ouvrir le champ. Ouais, c'est vrai, champ.
Ah, le bâtard.
Faut pas bien forcément te justifier. Après, tu vas avoir un crush ou t'as. Faut vite.
La pick table.
Ouais, ça, c'est la boîte que j'aurais montée, mais j'avoue, créateur économie, j'ai investi. Alors, ok, j'ai investi dans pas mal de boîtes dans la créateur économie, j'aurais pas dû investir autant. C'est complicado. Non, c'était dédicace à une boîte que j'adore, dans laquelle j'ai investi par amitié. Non, la vérité, c'est dans laquelle ils m'ont forcé à prendre des parts gratuitement, malgré mes refus. Il y a un moment où j'ai eu un DocuSign déjà signé, j'ai fait, ah bon, voilà, j'ai pas le choix, qui s'appelle Influencers.club et qui, en gros, est une. Et tu les connais.
Ah ouais, avec de Macédoine.
Exactement. Ouais. Et qui en gros ont une database de ultra qualifiée de 75 millions de créateurs. Et en fait, ils te font le reach out at scale. Donc, c'est un peu un SDR pour ceux qui connaissent le monde des sales pour la créateur. Et donc, ça, c'est une boîte, c'est des mecs que j'adore. Et bah, écoute, très simplement, la boîte de ma meuf qui monte une application de dating avec de l'intelligence artificielle pour permettre justement de matcher les gens sur des choses sur lesquelles ils ne soupçonneraient même pas un match possible.
Excellent.
Qui s'appelle Ava et que du coup je auquel je crois, mais j'ai investi aussi, donc c'est pas une question dans laquelle j'investirais, c'est j'ai investi et voilà.
Ok, cool. Deuxième question, c'est si tu devais monter une startup, alors tu m'as dit d'être un mauvais monteur de boîte, mais si tu avais les skills, qu'est-ce que tu aurais, peut-être parce que tu connais le parcours de l'histoire ou...
Bah, il y a une boîte là qui s'appelle 222.place, genre tout, le chiffre 222.place, et qui, justement, j'adore les mecs, ils sont tarés, ils sont complètement radicaux. Enfin bref, c'est trois Iraniens de 22-23 ans à Los Angeles, vraiment que j'adore, et qui montent une infrastructure de dîner, comme je disais brièvement avant, qui en gros te match avec des gens et organise ça. Et c'est super bien fait, le matchmaking est super bien fait. Ils n'ont pas besoin d'énormément d'utilisateurs pour faire assez d'argent pour en faire un truc très viable. Et je pense honnêtement que ça va. Moi, j'aurais voulu monter ça.
Ouais,
Mais en mode non scalable, mais un peu scalable, tu vois, en mode ah tiens, communauté. Mais ça, je pense qu'il y a un moment, un vrai gagnant qui va arriver sur ce marché-là, qui va, tu vois, qui est une espèce de marketplace aussi, qui se met sur OpenTable. Donc, tu peux faire le booking automatiquement. Donc, il t'amène des gens. De l'autre côté, il y a des endroits. Il y a du contexte entre les deux. C'est magnifique, tu vois.
Il y a Lunch Club, mais.
Ouais, mais Lunch Club,
c'est Lunch Club, mais le dîner, quoi, enfin, à façon dîner.
C'est ça. Mais Lunch Club, comme ils se lançaient pendant le confinement, les
pauvres.
Breakfast Club aussi, ils font un peu ça, mais là, c'est Breakfast Club, c'est pas mal de one-on-one. Là, c'est vraiment une table de 8. Mm. Tu fais ton dîner, je sais pas, une connerie, 20h, 22h. Et après, en fait, dans chaque ville, il y a un bar ou un endroit plus grand où tous les gens qui ont fait ces dîners-là se rejoignent, tu vois. Donc, t'as en plus cette excuse après d'aller dans un autre endroit. Bref, c'est, maintenant, ils font aussi les petits déj et d'autres trucs. Ils sont, parce que c'est toujours la même chose, cette idée-là, tout le monde l'a eu, etc. Ils sont extrêmement focus sur l'exécution, extrêmement radicaux. Ils ont une vraie mission. Ils vont jamais lâcher le steak. Genre, ils vont jamais lâcher le steak. Ils sont vraiment, 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 vraiment habités. Et du coup, moi, ça, c'est une boîte que j'aurais aimé monter.
Ok. Si tu devais être un créateur de contenu, qui aurais-tu été? Ou alors, si t'as pas d'idée, qu'est-ce que t'aurais kiffé faire? Si t'avais la liberté, genre.
Ok, je vais. Petite dédicace que mec que je connais pas d'ailleurs, mais que je dis. Un truc qui me fascine en ce moment, genre, ça fait longtemps que ça existe un peu, mais là, c'est devenu un niveau de délire. Je sais pas si vous voyez tout ce qui est les géoguesseurs.
Non, c'est quoi?
Ah oui, c'est les caches. Les géo... Ah non, les.
Non c'est... Explique. Vas-y, donne un exemple.
Délire. Et ils font vraiment des vues de ouf.
C'est pas le jeu des cartes, là, où tu dois choisir. Tu dois. T'as, les... ouais, t'as une map. Ouais, c'est ça. Non, ah, mon frère il jouait ça.
C'est quoi, vas-y, explique.
C'est un jeu. T'as des maps, t'as Google Maps.
Voilà.
Ah oui, des géocaches.
Ah, t'as dit géocaches.
Ouais, t'as un Google Maps, tu dois découvrir des dois trésors savoir, cachés dans la ville, non?
Non.
Tu dois savoir où c'est.
Je te donne un Google Street View au hasard dans le monde.
Genre les mecs doivent connaître, quoi.
Et le mec, il regarde, tu sais, il est à 360, il regarde comme ça. Et le mec, il prend la carte, il te dit, ok, alors là, je suis au Rwanda, parce qu'en fait, là, les routes, elles sont rouges et les poteaux, ils sont violets.
Il a vu un reflet, ou je sais pas quoi.
Des délires. Il a regardé le soleil, il a regardé la route, il a machin, et genre en 10 secondes, c'est des compétitions, du coup, en 1v1. Et le mec, il arrive à trouver ça genre à 30 km près. Mmh. Et toi, tu regardes, toi, t'as vu une route, t'as l'impression qu'on est au Brésil ou même au Danemark, t'en as rien à foutre, tu vois.
Ah ouais,
c'est. Et les créateurs qui font ça, il y en a un qui s'appelle Gabriel Géoguesseur, c'est un Français. Il est trop fort et. Enfin bref.
C'est vrai que c'est des machines.
Tu le mets n'importe où dans le monde, il sait où il est, du coup.
Pour te dire, il a fait. Du coup, ces gens-là créent du contenu, mais ils créent aussi des guides pour les autres personnes pour devenir meilleurs. Il a créé un guide de 36 pages sur la Slovénie.
moi
c'est,
chauffé,
c'est ce genre de niche où si genre, je te prends une machine à remonter le temps, je fais venir un mec d'il y a 20 ans et je lui montre ça, il me dit je te crois pas. Il dit c'est impossible que ça soit un genre de vidéo que tu regardes. Et ben moi, je regarde de ouf. J'adore ce truc-là. Ça m'éclate.
Putain, excellent.
Donc, j'adorerais être un mec qui connaît aussi bien la géographie pour pouvoir faire des géographies.
Ah ouais, mais là, c'est l'extrême, quoi. C'est
pas facile, en plus.
Là, c'est l'heure de...
C'est des millions de vues, hein. C'est des dingueries. Genre, le plus grand mec qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, géoguesseur, le Rainbow, je crois, un truc comme ça.
Mais c'est des fous furieux, quoi.
Ultra connu, maintenant. Wow. Chaud des meufs et tout.
Ah ouais, il passe sur Google Maps, quoi. Genre, le mec est trop chaud.
Le Google Maps guy.
Ils doivent parler que du même sujet. Alors ici, là, c'est où?
T'imagines la date, quoi. Genre, ils sont tous avec leur téléphone, là, j'ai localisation à 24.
Et j'habite où? J'habite là. Ah non. On y va d'ailleurs.
Comment
Ok, d'accord.
Excellent. Ouais, du coup, ok, cool. Et comment on peut te contacter, du coup, dernière question?
Twitter, @HugoAmselem, meilleur moyen. Je réponds, enfin, je regarde les DM, je réponds pas forcément, je les regarde.
C'est déjà pas mal. Ok, bah écoute, cool. Merci beaucoup pour ton temps, Hugo. C'est super cool d'avoir discuté avec toi. Et puis merci beaucoup, Alex et Julio, pour votre temps. Merci.
Ciao.
Ciao.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles. Et si t'es chaud, un petit commentaire en bonus sur Spotify, Apple Podcast et sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça nous aide énormément à faire connaître l'émission. Et si tu veux creuser davantage dans la creator economy, tu peux aussi t'abonner à ma newsletter Passion and Creator sur Substack. Sur Passion and Creator, je creuse dans les différentes tendances de la Creator Economy. Je t'aide à comprendre ce marché en pleine expansion, que tu sois entrepreneur, investisseur, C-level ou simplement pour toutes les curieuses et curieux de ce sujet. Tu peux aussi retrouver tous les podcasts du studio Airparty qui produit cette émission sur airparty.io. À très vite.